And for the record, this is the GAC meeting with law enforcement, RAA 17.
C'est la réunion du GAC avec les organismes d'application de la loi RA à partir de 5 heures de l'après-midi du dimanche. C'est Heddle qui prend la parole. Je vous prie de bien vouloir revenir à vos places parce que nous sommes prêts à redémarrer. C'est elle qui prend la parole, donc reprenons notre travail, s'il vous plaît. Notre prochaine séance concerne les révisions à l'accord d'accréditation des bureaux d'enregistrement ici au sein de l'ICANN pour les candidatures dans l'espace des noms de domaine de premier niveau générique. Vous devez peut-être vous souvenir qu'il y a eu un ensemble de révisions récentes publiées pour l'accord. Et je crois que nous avons tous eu des difficultés pour pouvoir faire un suivi des différentes révisions. ainsi que d'autres informations publiées sur le programme des nouveaux GTL. La bonne nouvelle, c'est que les organismes d'application de la loi ont suivi très attentivement les négociations qui ont donné lieu à ces révisions qui ont été publiées. Ils sont venus présenter au GAC aujourd'hui une information sur ce qu'ils ont pu savoir et à partager leurs opinions avec nous. En tant que collègues appartenant à divers gouvernements ici, je vais donc céder la parole à Joel Herting, qui fait partie de l'Europol. Il nous présentera le débat. Et je crois comprendre qu'il y a plusieurs membres des organismes d'application de la loi, y compris Bobby Flynn de l'FBI, qui est à sa droite. Il pourra contribuer à notre discussion. Assurément, le GAC et les membres du GAC auront des commentaires et des questions qu'ils voudront leur poser. Je cède la parole à Charles Herting. Merci, Heather, de cette bienvenue chaleureuse et merci à tout le GAC d'avoir invité les organismes d'application de la loi. Je m'appelle Truls Herting. J'ai été désignée comme chef du Centre européen des délits informatiques. C'est un domaine couvrant les 27 pays de l'Union européenne, réunissant 500 millions de personnes sans frontières et 2,9 agents d'application de la loi. Nous avons coopéré avec les États-Unis, l'Australie, le Canada, le G8 pour pouvoir analyser les différents événements dans les nouveaux GTLD pour voir quelles pourraient être les conséquences de cela. Lorsque nous serons en ligne, les délinquants le feront aussi. Donc, ce que nous voulions, c'était voir quel était l'ordre de grandeur, quelle est la flexibilité dans l'organisation du crime, de la grande criminalité, comment ils font pour commettre des délits sur Internet. Je ne parle pas que de l'abus sexuel, mais aussi des délinquants qui volent de l'argent, de l'information, qui commettent toutes sortes de délits. Sur Internet, la manière typique d'exercer le contrôle policier ne pourra plus être valable lorsque nous verrons tous ces nouveaux délits sur Internet, parce qu'il y a de nouvelles manières de combattre ces cyberdélits. Il y a de nouvelles frontières, de nouveaux contrôles, des évidences, des preuves techniques. Pour la première fois, donc, la police sera obligée de travailler autrement. Elle ne pourra pas arrêter les délits parce que cela va au-delà des frontières de nos pays. Les délinquants ne peuvent pas être aussi facilement retrouvés. Ils peuvent parvenir à opérer sur plusieurs pays en même temps. Donc, ils ont une très forte capacité d'exercer le crime. Nous devons faire que le délit sur Internet ne soit pas une affaire attractive pour les délinquants. Nous allons voir un accroissement de plus en plus fort du délit en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie. Et toutes ces régions vont nous apporter de façon statistique beaucoup plus de délits. Et nous ne pourrons pas fermer les frontières comme cela se faisait auparavant. Les délinquants n'ont plus besoin de voyager. Ils peuvent commettre leurs délits là où ils sont. Je veux donc vous présenter les antécédents des nouvelles recommandations par rapport au RAA. Cela nous fait revenir jusqu'en 2009. Je ne sais pas qui va montrer les diapositives, mais je veux un peu vous rappeler ce qui s'est passé d'année en année. En 2013, nous sommes presque sur la fin de la route. 3 ans de travail très intense avec vous et nous vous en sommes reconnaissants. Je crois que nous pouvons vous présenter quelques conclusions et vous, au nom de la communauté des organismes d'application de la loi, vous pouvez garantir les droits fondamentaux des citoyens pour qu'ils puissent se servir d'Internet sans être victimes des criminels. Vous pouvez nous aider à introduire quelques-unes de ces recommandations. Ces recommandations ont pour but d'aider dans la prévention et dans la attribution. dans un processus de demande d'antécédents des bureaux d'enregistrement et des registrants, la transparence et la responsabilité par la clarté et par l'utilisation du WHOIS. Vous pouvez voir les améliorations les plus importantes pour le nouvel accord, les points de contact quant à la fraude, la spécification de la rétention des données, la spécification sur des enregistrements de proxy et de privacité, l'accréditation sur les spécifications d'information des registrants. Malheureusement, tout ceci n'est pas complet dans l'accord comme nous voudrions le voir. Nous voudrions aussi inclure d'autres améliorations que nous avons identifiées. La première est liée à la validation et la vérification. Nous pensons tout simplement que nous avons besoin d'un travail plus poussé dans ce domaine et nous avons créé une lettre que nous adressons au GAC et au conseil d'administration de l'ICANN où, en des termes très particuliers, nous essayons d'identifier très spécifiquement ce que nous recherchons dans ce domaine. Mais nous avons besoin de quelque chose de plus qu'une vérification téléphonique ou par le courriel. Nous voulons quelque chose de plus. Il faut que nous puissions identifier les délinquants et les auteurs des délits. Il ne suffit pas de faire cette vérification par téléphone ou par courriel. Et nous voulons encore une revérification affirmative, parce que l'on vérifie et ensuite on oublie. Il faut qu'il y ait un processus de nouvelle vérification pour nous assurer que l'on continue à respecter les niveaux que nous avons établis. Il y a une autre diapositive à la page 2 qui indique que nous avons besoin, et ça c'est très important, nous avons besoin d'une rédaction très détaillée. Nous ne voulons pas de rédaction se prêtant à des interprétations différentes. Nous voulons qu'elle soit claire, directe, pour indiquer ce que nous voulons vraiment dire. Une rédaction qui établisse les conditions du contrat que les bureaux d'enregistrement vont signer avec l'ICANN. Il faut que le langage ne soit pas ambigu et il faut qu'il y ait une conformité contractuelle réelle qui apparaît à la section 3.7.7. /8 du RAA. Si je peux être très ouvert à votre égard, très sincère, je dois vous demander d'examiner certains points, à savoir le nouvel RAA doit être signé avant le lancement des nouveaux GTLD, avant qu'il ne commence à être opérationnel. Il est très important que nous ayons des mécanismes de gouvernance établis à l'avance, pas après. Si cela ne peut pas se faire à l'avance, cela doit se faire en même temps. C'est donc la recommandation que nous vous incitons à examiner et à présenter au bureau au conseil d'administration. Nous voulons ensuite que vous donniez votre soutien, l'amendement des registres de l'ICANN qui demande des bureaux d'enregistrement de signer une nouvelle RAA avant de pouvoir s'en servir. C'est un amendement qui nous permet de ne pas avoir à réinventer des choses. Enfin, que vous souteniez les quatre amendements ou les quatre améliorations de vérification que nous avons stipulées dans la lettre et qui apparaissaient dans la diapositive précédente. Ce n'est pas un travail énorme, bien sûr, c'est un peu plus d'efforts, mais nous ne pouvons pas céder le droit de faire quelque chose sans avoir établi auparavant tous les mécanismes nécessaires pour pouvoir savoir qui est responsable de chaque étape. Nous avons besoin d'un processus de vérification pour pouvoir déterminer clairement qui est le responsable de chaque étape. Si vous nous soutenez en ce sens-là, nous pourrons nous aussi respecter et tenir le rôle qui nous est dévolu. C'est une voie très dynamique qui nous oblige à travailler constamment. Les organismes d'application de la loi partout dans le monde, en Russie, en Chine, aux États-Unis, dans l'Union européenne, en Afrique, ils doivent faire leur travail et ils peuvent avoir les outils nécessaires pour prévenir les délits et pour que l'on puisse tirer profit des aspects positifs d'Internet. Nous sommes de plus en plus mobiles, nous avons besoin d'avoir de plus en plus de protection, une protection de plus en plus grande contre ces organisations criminelles qui tirent profit des avantages d'Internet. L'Union européenne perd 1 600 milliards de dollars chaque année, dont un pourcentage peut être attribué au cyberdélit. Et ceci ne se fait qu'au moyen d'un ordinateur. Lorsque nous parlons de 1 600 millions d'euros, c'est-à-dire 1,6 milliard d'euros perdus, nous parlons de cyberdélit en utilisant les paiements en ligne ou les cartes de crédit. Cela se passe en Union européenne. Nous devons être préparés pour faire face à ce type de problème parce qu'autrement, nous allons finir par nous retrouver dans une situation où quelqu'un aura besoin de davantage d'initiatives que celles dont nous sommes capables de nous occuper. Donc, je vous remercie de votre attention. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Il y a quelqu'un qui a des grandes connaissances techniques, qui connaît tous les détails en profondeur. Donc, si vous en avez, mon collègue et moi, nous sommes vraiment préparés pour répondre à ce type d'inquiétude. Nous avons d'autres collègues derrière nous, donc nous croyons être en mesure de répondre à vos préoccupations. Nous espérons que cette présentation a été claire, facile à comprendre et que ce sera agi d'une approche minimaliste des organismes d'application de la loi. La seule chose que nous demandons, c'est une petite adaptation de ce qui a déjà été accordé en tant que accord. Je vous demande de nous aider à présenter ça au conseil d'administration pour mieux faire notre travail. C'est Heather qui a la parole. Merci. Le Liban maintenant. Cette question est adressée à Heather. Est-ce que nous avons des copies de ces lettres? C'est Heather qui répond. Non, pas en ce moment, mais elles vont être diffusées. Nous allons les recevoir. C'est le Liban qui prend la parole. Ce sera difficile de prendre une décision à propos de quelque chose si nous n'avons rien vu et il ne nous reste que 4 jours pour vérifier cela avec les organisations auxquelles nous appartenons. C'est pour cela que je me demande quelles seront les dates butoirs. C'est Heather qui prend la parole. Merci. Je crois que cela fait partie du contexte à plus long terme où il y a des questions qui font encore l'objet de débats depuis un certain temps. J'espère que ce qui est déjà arrivé puisse nous aider et que nous pourrons concevoir une période spécifique pour les organismes d'application de la loi après avoir reçu les lettres. Donc, le Liban prend la parole. Alors, j'ai mal compris ce qu'on nous a demandé. On nous a demandé de considérer ceci avant d'offrir de nouveaux GTLD ou bien de les lier à cela. Et en ce sens-là, les nouveaux GTLD vont être accordés suivant les résultats de ces réunions. C'est pour cela que je pose ma question. C'est Heather qui répond. Je crois qu'il y a une question de délai, de date butoir. Vous avez raison. L'Ouganda prend la parole maintenant. Merci, Madame la Présidente. Merci aux orateurs qui ont fait la présentation. Lors de votre introduction, vous avez dit que la modalité de commission des délits à l'heure actuelle dépasse les frontières. En Ouganda, nous avons quelques lois et on a fait passer par les tribunaux plusieurs affaires sur ces lois. Et les personnes ayant commis ces délits sont des personnes en provenance des pays européens. Ce n'est pas des citoyens de l'Ouganda. Les personnes qui ont commis ces délits étaient là. C'est des délits qui sont, enfin, ce sont des cyberdélits. Nous, bien sûr, nous sommes membres de l'Interpol. Est-ce que vous avez des accords pour créer des compétences dans d'autres pays où les ressortissants de ces pays, ces ressortissants qui commettent des cyberdélits, ne sont pas des ressortissants du pays où le mécanisme est commis. Est-ce que vous avez des mécanismes pour résoudre cela? Le prochain orateur, c'est l'Italie. C'est l'Italie qui prend la parole. Merci, Madame la Présidente. Ma question est liée au rapport entre les revendeurs et les bureaux d'enregistrement. Vous avez utilisé une expression en ce sens que ce rapport ne doit pas être réglementé de façon un peu trop vague. Vous proposez donc... Ou est-ce que cela existe dans ce débat avec l'ICANN? Est-ce qu'il y a donc une idée plus précise de la manière dont on peut résoudre ce problème? Parce que bien sûr, nous savons que les revendeurs sont très nombreux et que ceci crée bien sûr une possibilité de ne pas trop respecter les accords des registrants.
De prendre la parole. Merci. Je pense que cette question des revendeurs est une question très importante. Est-ce que vous voudriez répondre à cette question? L'orateur ne s'identifie pas. Bobby Flam prend la parole. Nous voudrions y répondre. Il s'agit dans la chaîne de sûreté. Il y a eu une question avant dans le sens qui visait à savoir si les revendeurs étaient des tiers qui vendaient des noms de domaine et qui, donc, ils n'étaient pas inclus dans les RRA. Maintenant, ces revendeurs sont pris en compte dans le RAA. Mais il y a des problèmes au niveau de la rédaction par rapport à cette question. Et nous voudrions que, justement, le texte soit plus clair afin que celui qui lira le contrat puisse comprendre que cela inclut aussi les revendeurs. Heather prend la parole. Merci. L'Australie a la parole. L'Australie prend la parole. Merci pour cette présentation aussi claire et pour cette mise à jour par rapport au travail en matière de RAA. Nous savons que vous avez fait vous avez beaucoup travaillé. C'est un sujet sur lequel nous nous penchons depuis un moment au sein du GAC et cela fait partie d'un ensemble d'activités liées aux recommandations. Nous avons un groupe qui s'appelle, je crois, Service annuaire des GTLD qui travaille sur cette question et il serait utile de faire un suivi de cette question pour voir comment ils avancent, pour faire un peu pour voir comment toutes les pièces se mettent en place de ce puzzle. En ce qui concerne les délais, je pense que le GAC a déjà s'est beaucoup exprimé par le passé par rapport à cette question, a donné des avis. Et pour être clair, le GAC a dit auparavant que les RAA doivent être conclus avant la délégation des nouveaux GTLD. Nous avons conseillé le conseil d'administration en leur disant que les contrats doivent être clairs, sans aucune ambiguïté, et les équipes de rédaction de révision du CRUIS doivent se pencher sur les recommandations faites par le GAC. En ce qui concerne les revendeurs, le GAC a recommandé, l'équipe de révision du CRUIS a recommandé que la chaîne contractuelle aille depuis les revendeurs d'enregistre jusqu'au bureau d'enregistrement. Cela, on l'a dit très clairement. Et peut-être qu'il y aura de nouveaux éléments. Mais il est très utile de se rappeler que le GAC a déjà exprimé son avis par rapport à plusieurs de ces sujets. Heather prend la parole et a donné la parole à la Commission européenne. Merci, Présidente, et merci, Troels, pour cette présentation qui nous a été très utile. Un point d'information. Je pense qu'il est très important de rappeler que les bureaux d'enregistrement européens ont subi des vérifications très difficiles. Donc cela est en place en ce qui nous concerne. Nous croyons aussi qu'il est très important qu'il y ait des certitudes au niveau juridique. Il nous faudra réfléchir aux demandes que vous nous faites. Bien sûr, il y a des négociations en cours et nous allons donc explorer ces demandes que vous nous avez adressées. Heather prend la parole. Merci. Donne la parole au Liban. Merci l'Australie pour cette explication. J'ai une question. Pour les pays comme le Liban, si nous voulons accéder à ce type de données, une fois que tout cela sera mis en place, comment allons-nous pouvoir accéder à ces informations? Si les autorités d'application de la loi du Liban, comment peuvent-elles obtenir ce type de données? Si cela est nécessaire pour des actions d'application de la loi. Le Liban reprend la parole. Si les bureaux d'enregistrement veulent donner, si les bureaux d'enregistrement veulent donner des informations et que nous voulons essayer de faire un suivi de ces informations, comment ces données sont à la disposition des organismes d'application de la loi d'autres pays comme le Liban? Bobby Flam prend la parole. Je vais vous répondre et vous dire ce que nous faisons aux États-Unis s'il s'agit des informations privées, par exemple, dont nous avons besoin des informations sur des cartes de crédit, etc. Le QIS est une base de données avec des données disponibles pour tout le monde. Ce sont des informations que nous, en tant qu'organismes d'application de la loi, c'est des informations qu'il nous faut. Donc, tout d'abord, il nous faut un ordre du juge. Et puis, en deuxième lieu, on peut accéder aux informations publiques. Le Liban prend la parole. Cela peut s'appliquer aux entités qui se trouvent en dehors de la juridiction. Bobby répond. Oui, ça dépend des lois et des processus des différents pays. Par exemple, si vous avez un bureau d'enregistrement au Liban qui possède ces informations, cela va dépendre des lois du Liban. Pour voir comment les organismes d'application de la loi pourront recevoir ces informations. Le Liban prend la parole. S'il y a quelqu'un qui a commis un délit et je fais le suivi depuis le Liban, Bobby répond. Cela est plus difficile parce que ça dépend des juridictions des différents pays. Il y a beaucoup de pays qui ont signé des traités d'assistance mutuelle en vertu desquels les départements de justice peuvent se communiquer entre eux, ou par exemple, si le crime a été commis au Liban, c'est le département du Liban qui va juger ce délit, ou bien que ce soit, ça dépend des accords. C'est un processus très lent, pour être honnête. Et nous voudrions que le juice devienne public. C'est comme ça, il ne faudra pas chercher des preuves juridiques. Il y aura très rapidement des preuves numériques. C'est pour cela qu'il faut vérifier que ces informations soient correctes et pour que les recherches ne prennent pas du retard. Heather prend la parole. Merci. L'Australie a la parole. Merci. L'Australie prend la parole. J'ai une question. Je l'ai déjà posée dans d'autres réunions. Je ne sais pas s'il y a une réponse de la part du conseil de l'administration. C'est pour ça que je me demande si vous pourriez me dire quelle serait la deuxième partie de la recommandation pour les organismes d'application de la loi, la partie concernant la diligence due. Bobby prend la parole. La partie 2 de cette recommandation concerne l'ICANN, c'est-à-dire l'ICANN ferait la diligence due auprès des bureaux d'enregistrement accrédités pour s'assurer qu'ils soient incorporés, etc. Une autre recommandation de la partie 2 concerne le fait que l'ICANN doit produire un rapport d'audit sur les bureaux d'enregistrement, sur les registres, etc. L'ICANN a mis en place une diligence due sur l'accréditation des bureaux d'enregistrement. Cela a eu lieu en juillet 2011. Ils ont mis en place un système en vertu duquel ils ont fait une diligence due auprès des bureaux d'enregistrement en vérifiant les registres financiers, les registres de constitution des bureaux d'enregistrement, etc. Je sais que Peter d'Australie a demandé à savoir quels sont les points B, C, D, et nous n'avons pas reçu de réponse. En ce qui concerne la diligence due, nous savons qu'il y a eu un programme qui a été couronné du succès. Nous connaissons les résultats et nous savons que cela a été fait en termes de diligence due. Claire prend la parole. la parole au Singapour et puis aux États-Unis. Singapour prend la parole. Merci, Présidente, et merci à l'équipe pour ce travail qui a été accompli. Nous soutenons vos efforts. J'ai une question à vous poser. Le RAA concerne les bureaux d'enregistrement. Si les bureaux d'enregistrement ne peuvent pas mettre en place des actions rapides, nous savons que ça n'a aucun sens que les bureaux d'enregistrement fassent quelque chose. C'est-à-dire, nous voulons savoir s'il y aura des dispositions au niveau du RAA pour que, au cas où un bureau d'enregistrement considère qu'il faut suspendre un registre et qu'il faut prendre des actions rapides, que le bureau d'enregistrement va se voir dans l'impossibilité de le faire dans certains cas. Voulez-vous répondre, dit Heather? Bobby prend la parole. Je vais essayer de répondre. Je pense que le bureau d'enregistrement, la rédaction est un peu compliquée. Ce que nous essayons de faire, c'est de chercher à préciser les choses dans les diapositives que nous avons montrées. Il y a des spécifications en ce qui concerne les délais et la façon d'agir pour ne pas arriver à un point où on ne sait plus ce que veut dire opportunément. Parce que parfois le texte dit raisonnable et on ne sait pas très bien ce que cela veut dire. Ce n'est pas très précis. Donc, si les bureaux d'enregistrement veulent agir de façon rapide, ils peuvent le faire parce que cela figure dans les accords qu'ils ont avec les registrants. Mais avec ce RAA, l'une des conditions, l'une des exigences, c'est de fixer certains délais. Par exemple, si un juice n'est pas correct, ils auront un certain délai pour corriger ces informations. Or, du point de vue technique, d'après ce que je comprends, et je peux me tromper, c'est que s'ils veulent suspendre ou annuler un nom de domaine rapidement, ils peuvent le faire parce qu'il y aurait une enfreinte aux conditions du contrat et ils ont légalement le droit de le faire. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question, monsieur? Singapour prend la parole. Pardon, ma question est la suivante. L'opérateur de registre a le pouvoir de suspendre un nom de domaine si des actions ne sont pas mises en place immédiatement? Bobby Flam prend la parole. Oui, ils le font très souvent. Heather prend la parole. Les États-Unis et puis le Royaume-Uni. Les États-Unis prennent la parole. Merci, merci de nous avoir donné votre point de vue. Pour notre collègue du Liban, vous ne devez pas attendre. Si vous voulez voir une version du texte dont parlait Trolls, j'ai fait circuler une position du gouvernement des États-Unis sur le RAA le 21 mars. Donc vous pourrez trouver le texte là. Je serais très surprise si notre position était différente de celle du reste des organismes d'application de la loi. Si le GAC a le temps au cours de la semaine, et nous savons que ce sera difficile, peut-être qu'on pourrait envisager la façon de remonter cela au conseil d'administration. Ou comment mentionner un conseil, comment faire un avis assez ample avec un commentaire qui puisse dire que les documents doivent être modifiés. Et que cela devrait se passer avant le lancement des délégations des nouveaux GTLD. Je pense que le GAC doit envisager une bonne rédaction du communiqué pour pouvoir renforcer l'importance que nous accordons à ces objectifs en ce moment. C'est pourquoi, si nous ne sommes pas d'accord par rapport à la proposition à la fin de cette réunion, nous pouvons chercher une meilleure rédaction pour notre communiqué. Pardon. Merci. Heather prend la parole. Merci, les États-Unis. Je pense que le Conseil, l'avis du GAC est déjà prêt par rapport à cette question. Et nous avons une communication avec le Conseil d'administration mardi. Donc, on pourrait peut-être se préparer. Nous pourrions nous préparer pour parler de cette question avec le conseil d'administration. On pourrait se mettre d'accord pour voir comment on aborderait cette question avec le conseil d'administration. Royaume-Uni à la parole. Merci, présidente, et merci, Bobby, pour cette mise à jour. Je voulais reprendre la question de l'Ouganda par rapport au renforcement des capacités et aborder le problème que rencontrent aujourd'hui un grand nombre de pays et de des ressortissants d'un certain pays commettent des délits dans un autre pays. Peut-être qu'il s'agit... Ce n'est pas une critique, ce que je vais dire. Il y a des projets de développement et de création de capacités et de compétences dont vous êtes probablement au courant. Le Royaume-Uni fait des contributions directes à ce type de création de compétences. Nous finançons et travaillons très activement dans l'initiative du cybercrime du Commonwealth, où l'ICANN est partenaire avec le Bureau des Nations Unies pour la drogue et les délits, ainsi qu'avec le Conseil de l'Europe, l'UIT et beaucoup d'autres organismes. Il s'agit d'une initiative qui est en cours, dont nous allons entendre parler lors d'une séance qui va aborder les activités du Commonwealth. Donc nous vous invitons, si vous êtes intéressé à participer, ce sera mardi à 12h30 dans cette même salle. Il y a donc plusieurs initiatives en cours du point de vue de la création de capacités pour faire face aux délits informatiques et l'ICANN participe dans ce type d'initiative. Je voulais donc souligner cette importante question qui a été posée par l'Ouganda. Merci. La présidente prend la parole. Merci, Royaume-Uni. Je n'arrive pas à voir qui lève la main au bout de la table. C'est le Chili, d'accord. Allez-y. Le Chili prend la parole. Merci, présidente. Bonjour. Le Chili accorde une grande importance au travail qui se fait dans ce domaine et nous soutenons aussi le travail mentionné par les États-Unis dans le sens où il faut incorporer une rédaction précise dans le communiqué afin que on puisse mettre en place un suivi plus interactif de cette question. J'ai deux questions. Tout d'abord, anticipe-t-on les difficultés qui pourraient se poser dans ce domaine ou bien on est en train d'avoir une attitude réactive par rapport à la façon dont on agit de façon individuelle et de façon collective? Première question. Et deuxième question, qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir une action plus ferme? Quels sont les obstacles auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui qui nous empêchent d'être plus proactifs dans un domaine qui nous intéresse à tous? Il y a une interaction au niveau mondial, au niveau du commerce, où il y a une mobilisation de personnes. J'étais en train de lire, je sais que l'avenir des guerres se trouvent dans les médias. Donc comment pouvons-nous soutenir de façon plus ferme les défis que nous avons à relever? Merci. Heather prend la parole. Merci pour cette question. Le Chili, Troels prend la parole. Merci, Chili. Je pense que notre action ne se focalise pas tellement sur les actions de guerre, mais plutôt sur les délits ordinaires dans tous les pays, parce que n'importe le pays, tous les pays sont victimes de délits. Il est vrai qu'il est important d'interagir de la façon correcte, il est important d'avoir toujours des mises à jour. Et comment vous pouvez être mis à jour dans vos pays? En Union européenne, nous voulons une plus grande participation avec les membres du GAC et avec les membres de l'Union européenne pour vous inviter au C3 et pour que vous voyiez personnellement quels sont les cas auxquels nous sommes confrontés et que vous ne le lisiez pas uniquement sur le journal. Les choses changent très vite et il nous faut essayer de prévoir ce qui va se passer dans 2 ou 3 ans et voir quelles sont les mesures qui peuvent être prises du côté de l'industrie, du côté de l'université. voir si nous sommes prêts pour approuver les lois, des lois meilleures pour une meilleure éducation, pour une meilleure création de capacités. Ce sont des aspects importants. Mais en dehors de l'Union européenne, il faut qu'on travaille là-dessus de façon collective. On ne peut pas laisser cela dans les mains, entre les mains d'un seul pays, en ce qui concerne ce qui a été dit par l'Ouganda et le Royaume-Uni. L'Union européenne doit créer une liste des pays où nous pourrions travailler de façon prioritaire. Car face à une pénurie d'argent, il faut prioriser notre travail, accorder des priorités à notre travail pour ne pas avoir à faire des efforts, des doubles emplois dans un même pays. Les efforts doivent être coordonnés et cela, on peut le faire en tant qu'Union européenne. Mais ce n'est pas, on ne parle pas de délits au niveau régional, il faut parler de délits au niveau, à l'échelle mondiale. Je peux vous assurer qu'il y a de la place pour tout le monde ici, parce que les délits sont tellement nombreux qu'il y en a suffisamment pour tous. Il nous faut développer un travail collectif, développer les capacités dont nous avons besoin afin de pouvoir créer des outils ou utiliser cet outil qu'est Internet pour créer un environnement sûr pour tout le monde.
C'est Heather qui prend la parole. Je ne sais pas s'il y a d'autres demandes de prise de parole. Il me semble que c'est un bon moment pour conclure la séance. Comme je l'ai dit tout à l'heure aux membres du GAG, nous avons l'occasion de présenter ceci au conseil d'administration et de tenir compte de la possibilité de renforcer l'avis que nous avons déjà fourni en ce sens-là. Les commentaires faits par les États-Unis à la liste du GAG, nous pouvons peut-être les rediffuser. Cela va nous permettre d'aborder ce sujet comme une partie de la série de thèmes que nous allons discuter aujourd'hui. Nous remercions Bobby et Trills et dans leur personne à tous les organismes d'application de la loi dans la mise à jour qui concerne le RRA et le procès qui est encore en cours, c'est-à-dire sur le RRA et le procès qui est encore en cours. Nous allons donc conclure notre travail d'aujourd'hui. Nous allons nous retrouver mardi matin. Rappelez-vous que mardi matin, nous sommes invités à un petit déjeuner concernant différents regroupements. Vous êtes tous invités à ce petit déjeuner. Je vous souhaite un bon repos et je vous souhaite un bon travail pour la vie du GAC, vous n'êtes pas tout à fait libre. Bon, bonne soirée à tous. Merci.